On a fini la dernière fois avec la Genèse, la fin de la Genèse. On a vu avec Joseph et la famille de sa famille, avec les enfants de Jacob qui sont tous allés en Égypte. Et aujourd'hui, donc on fait la cinquième heure de l'étude et on va regarder tout le reste du Pentateuque. Donc quatre livres, ça va envoyer. On va avoir Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est pas mal de contenu. Et donc la fin de la Genèse, c'est la mort de Joseph. Et ce peuple, cette famille en fait, qui était entrée, il y avait 70 personnes qui étaient allées en Égypte, va se multiplier et va devenir une nation. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment la naissance de la nation. Le fonctionnement de cette nation, le plan que Dieu a pour cette nation est une partie vraiment très importante de l'histoire de la nation Israël. C'est un peuple qui existe toujours, c'est un peuple qui a une importance géopolitique toujours importante, c'est un peuple qui en 3 à 4 000 ans a réussi à rester uni, à avoir ses règles, son identité restée. Et c'est tout partie de ce qui se passe dans ce qu'on va étudier aujourd'hui et de ce que Dieu a implémenté, de comment il a lancé cette nation.
Oh, c'est cool. Ouais.
Bonsoir Mireille.
Non mais c'est la faute de votre mari. Il vous amène pas à l'heure.
Voilà, c'est pour ça.
Excuse-moi.
Il n'y a pas de mal. Alors, l'histoire de tout ce qu'on va regarder, souvent, si vous venez à l'église, si vous avez, pour les enfants qui ont été à l'école du dimanche, c'est souvent les histoires qu'on va raconter parce que c'est des histoires qui se racontent assez facilement. Il y a des passages qui sont un petit peu plus difficiles à lire. Mais on va essayer de faire un résumé. Après, on va regarder les quatre livres, un petit peu plus chaque livre dans le détail. Il y a donc ces 70 personnes qui rentrent en Égypte. C'est la famille de Jacob, les frères, sœurs et puis les descendants de Joseph. Et le pharaon à l'époque, Joseph, est bien vu et a une place importante. Et le peuple d'Israël va avoir droit à une des meilleures parties du pays d'Égypte, le pays de Goshen, qui était une terre très fertile. Et ils vont se développer. Et on voit qu'en fait, le peuple, ils sont 70 quand ils arrivent. Et à la sortie du pays, quand ils arrivent dans le désert, on a un dénombrement où ils vont être 600 000 hommes. Et donc, on estime à 2 ou 3 millions le peuple qui sort du pays d'Égypte. Donc, ils passent de 70 en quelques générations à vraiment une nation. Ça passe d'une famille à quelque chose de... C'est plus du tout une famille, c'est vraiment un peuple assez important. Et on va voir comment Dieu a provoqué cette sortie. Ce peuple que Dieu avait choisi, il avait eu ses accords avec Abraham, cette alliance qu'il avait, ses promesses qu'il avait faites à Abraham, ensuite à Isaac, à Jacob. Et s'ils étaient restés en Égypte, ils seraient sans doute un peu mélangés au pays. Ça aurait pas, ils seraient devenus des Égyptiens à force avec le temps. Mais Dieu va les prendre et va leur donner une identité propre en tant que nation, et c'est ce qu'on va voir dans les livres aujourd'hui. Donc ils vont être dans ce pays, se développer, se multiplier, et il y a un nouveau pharaon plus tard qui va arriver et qui va se mettre à les persécuter et qui va en faire des esclaves. Et c'est cet événement, ce changement qui va les amener plus tard à sortir. Donc ils deviennent des esclaves, le peuple les traite vraiment mal. Les Égyptiens les traitent comme des esclaves, s'en servent pour construire des choses, les abusent d'eux. Et il y a un personnage qui naît à ce moment-là qui est Moïse. Moïse qui a écrit le Pentateuque, qui est un personnage très important dans la nation juive. Et lui naît au milieu d'un génocide où le pharaon fait tuer tous les enfants mâles pour essayer de limiter un peu l'influence de ce peuple qui est trop nombreux. Et Moïse survit de manière un peu miraculeuse. Il va être adopté par quelqu'un à la cour du pharaon. Et il va être élevé comme un prince, comme un jeune prince égyptien, donc il a une très bonne éducation, et il se rend compte plus tard qu'il est d'origine juive, il va voir l'état de son peuple, et il va vouloir venger la mort d'un juif, et suite à cet événement, il tue un égyptien, et il va fuir dans le désert, vers 40 ans. Il passe ensuite 40 ans dans le désert, et Dieu se sert de cette période pour le préparer, pour lui faire connaître aussi le désert dans lequel il va ensuite errer avec la nation, plus tard. Et Dieu va l'appeler. Et donc il y a un épisode où Dieu lui dit « Je veux que tu retournes et je vais t'utiliser pour faire sortir mon pays, pour faire sortir ma nation, cette nation juive, pour les libérer. » Donc Moïse retourne ensuite. Il y a cet épisode avec les 10 fléaux, où le pharaon ne veut rien savoir, il dit « Non, vous restez là, c'est notre main d'œuvre, vous partez pas. » Et donc Moïse dit « Bon, bah, tu vois avec Dieu, et Dieu va accabler le pays d'Égypte. » Le pharaon, finalement, au bout de 10 fléaux, veut bien accepter de laisser partir le peuple. Ils sortent, il y a l'épisode de la traversée de la mer Rouge, et ensuite ils vont partir dans le désert et se lancer vers le pays, la terre promise, qui est l'Israël actuel. Et quand ils arrivent un peu à la frontière du pays, ils vont envoyer des espions, regarder comment faire un peu l'état des lieux dans le pays. Et ils rentrent dans le pays et ils passent 40 jours à regarder un peu les différentes nations, les villes, voir l'état des forces en place, parce qu'il va falloir qu'ils rentrent de manière en faisant la guerre, quoi. Ça va pas être quelque chose de simple. Et au retour, ces 12 espions, il y en a deux qui disent. Il y a des forces là, mais Dieu est avec nous, on peut y aller. Et les 10 autres espions disent non, on va pas y arriver, ils sont trop forts, les villes sont fortifiées, nous on est là, on fait du camping dans le désert, qu'est-ce qu'on va faire? Et le peuple dit Dieu, pourquoi tu nous as amenés là? On peut même pas rentrer dans cette terre promise, soi-disant que tu nous as donné. Et Dieu va dire bon ben. Comme vous n'avez pas voulu me faire confiance, vous allez tourner dans le désert pendant 40 ans, le temps que tous les adultes, en quelque sorte, meurent. Et puis la génération d'après, je les ferai entrer, eux, dans la terre promise. Donc ensuite, on a ces pérégrinations dans le désert pendant 40 ans.
Ouais. Avant et après. Deux fois.
Bah, 40 ans pour Moïse dans le désert, lui. Ouais, bah, et puis après, 40 ans, lui... Et puis ensuite, on va avoir la loi. Dieu leur donne une loi, va organiser la nation, va leur donner des codes pour comment s'organiser, les rôles de chacun, comment organiser la vie dans le désert, comment ils doivent les règles, etc. de leur nation. Et après tout ça, on va voir comment Dieu va répéter la loi à la deuxième génération, va leur redonner. Les mêmes règles et les préparer pour entrer dans le pays. Et à la fin de notre étude aujourd'hui, on va être juste avant l'entrée. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard avec Josué et l'entrée dans la terre promise et les batailles, etc., qui vont avoir lieu. Donc c'est une portion assez conséquente, hein. Il y a plein de détails. C'est vraiment ces textes, c'est la Genèse plus ces 4 livres, c'est ce qu'on appelle la loi, le Pentateuque. Qui veut dire les 5 livres ou les 5 parchemins en grec, c'est un terme grec, et c'est vraiment la base de l'histoire du peuple d'Israël. Donc c'est quelque chose qui est important pour toute la culture judéo-chrétienne pour le monde occidental, parce que c'est vraiment le fondement de la nation d'Israël qui va ensuite amener Jésus et qui va nous amener en grande partie ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de notre culture. Il y a plein de choses qui sont des histoires auxquels on fait référence dans la culture, c'est des images. Si vous allez regarder dans des musées, dans les tableaux, il y a plein de tableaux qui font référence à des épisodes ici ou dans ces textes. Il y a plein d'expressions qui viennent de ce qui se passe dans ces textes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Exode. L'exode, ça veut dire sortie. Donc c'est la sortie du pays d'Égypte. Et on peut dire que c'est le livre de la naissance de la nation d'Israël. On a dit que c'était l'apparition de Moïse qui allait amener cette sortie, donc qui grandit jusqu'à 40 ans en Égypte, puis qui sort dans le désert, qui fuit en quelque sorte Après avoir tué quelqu'un en Égypte, il fuit dans le désert. Il va passer 40 ans dans le désert et puis Dieu va l'appeler. Il va lui dire, je veux que tu retournes en Égypte et que tu sois celui qui fasse sortir mon peuple d'Égypte. Il va dire non, mais je suis pas capable, j'ai du mal à parler. S'il faut que j'aille parler avec le pharaon, je vais pas pouvoir. Et il va demander à ce que son frère Aaron soit son porte-parole. Moïse, c'est un peu une forme, une préfiguration de Jésus, qui c'est le libérateur. On va voir aujourd'hui que tous ces textes, dans quasiment chaque épisode, il y a des préfigurations de Jésus. Il y a des choses où on peut se dire, tiens, on peut comparer et voir des éléments qui ressemblent à ce que Jésus va faire de manière complète dans le Nouveau Testament. Moïse est dans le désert. Et cet épisode, Dieu va lui parler il va apparaître dans un buisson. On parle de l'ange de l'Éternel qui apparaît dans un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir cet échange. C'est dans Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Donc il va avoir le débat, etc. Mais Moïse accepte finalement ce que Dieu lui demande. Et il va retourner en Égypte et il va voir le pharaon et il lui explique que Dieu lui a dit de laisser partir le peuple, les juifs d'Égypte. Et il y a cet épisode des 10 fléaux. Le pharaon ne veut pas les laisser partir. Et donc il y a ces 10 catastrophes naturelles. Dans Exode 12:12, il est dit que c'était des jugements contre les dieux d'Égypte. Donc on sait que les Égyptiens, quand vous regardez les hiéroglyphes, etc., il y a plein de dieux un peu bizarres avec des dessins. Il y a des Osiris, Ra, des scarabées, plein de différentes formes. On les connaît dans la culture des films, ou des dessins animés, ou des cours d'histoire. On voit les dessins de ces choses-là. Donc on peut regarder et faire toute une étude en détail où c'est Dieu dans les jugements, dans ces 10 fléaux, qui presque toujours, il y a des références à des dieux. Il y a un dieu du soleil, et donc Dieu va obscurcir le soleil pendant 3 jours. Il y a des dieux, on dit que Osiris c'est le dieu du Nil, et donc il va changer l'eau du Nil en sang. Alors on peut faire toute une étude de regarder les différents dieux égyptiens, et Dieu en quelque sorte qui se moque, qui dit non mais vos dieux en fait moi j'en fais ce que je veux, pensez qu'ils sont tout puissants, mais moi
Mais tu crois qu'ils avaient compris ça?
Pour l'Égyptien, c'était quand même des choses qui étaient très parlantes. Quand on vénère un dieu du soleil, on se dit pour nos récoltes, il faut que le dieu du soleil, on va faire des sacrifices pour le dieu du soleil, puis le soleil est pas. Pendant 3 jours, il y a de l'obscurité, tu te dis bon, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a les. Alors, on peut faire une étude en détail, aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais chaque élément, c'était des dieux, c'est lié à des dieux égyptiens. Donc après, bon, je pense personnellement que c'était quand même assez clair pour les Égyptiens. Donc il y a l'eau du Nil qui est changée en sang, les grenouilles qui pullulent jusqu'à mourir, et après les cadavres, etc. Ça fait vraiment un problème. Les moustiques, il y avait des mouches où on dit que c'était peut-être des essaims de scarabées. Enfin vraiment un problème. Les bétails qui va mourir, la grêle qui va venir poser des problèmes à l'agriculture, les sauterelles qui arrivaient par comme des nuages, enfin nous on connaît pas trop, mais quand il y a des sauterelles, on parle de milliards et de milliards de sauterelles qui arrivent comme un nuage et qui t'envahissent comme une tempête de sable, quoi. Enfin c'est vraiment quelque chose que qui ensuite il y a les ténèbres. Et puis le dernier point, ça va être la mort des premiers-nés.
Avec... Ça serait du coup la divinité de quoi, tu
vois, bah, c'est en quelque sorte la fin du pharaon, puisqu'il va perdre son fils aîné. Ouais. Bonsoir. Il n'y a pas de mal. Et donc ce dernier épisode, ce dernier jugement, ce dernier fléau, c'est la mort des premiers-nés. Et il y a le passage de l'ange de la mort. Et c'est la Pâque, c'est la première Pâque. Et donc il y a l'ange de la mort qui passe. Et dans toutes les maisons où il y a du sang d'agneau qui est mis sur les portes, les premiers-nés vont être épargnés. Et dans les maisons où il n'y a pas ce sang de l'agneau qui est mis sur les portes, les premiers-nés vont mourir. Et donc évidemment, ça fait référence et ça fait penser à Jésus, l'agneau de Dieu, et dont le sang est en quelque sorte ce qui va éviter la mort spirituelle. Suite à ça, le pharaon va dire « Je veux vraiment bien vous laisser partir, allez-y. » On est en train de regarder les 10 fléaux dans l'Exode. Donc ils partent, donc ils prennent tout le peuple là. Comme on avait dit, on estime que c'était 2 à 3 millions de personnes, donc c'est pas un déplacement facile. Moi j'ai déjà fait des aller camper à 10 personnes, c'est déjà compliqué de penser à tout ce qu'il faut. Et là ils étaient vraiment nombreux. Donc ils partent, ils se retrouvent dans le désert, et puis il y a le pharaon qui se dit finalement j'ai fait une bêtise, on va aller les chercher. Et Dieu va les protéger, ils vont arriver à... Dieu va les bloquer en quelque sorte, et il y a ce passage de la mer Rouge où ils vont passer, Moïse va séparer les eaux grâce à Dieu, et ils vont passer et échapper au pharaon. Ils partent, et dans le Sinaï, c'est là que Dieu va leur donner les 10 commandements. Moïse va monter en haut de la montagne, et il va leur donner ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. Ça, c'est dans Exode 20, les 10 commandements. Donc, si vous les connaissez pas, on fait une petite révision. C'est bon de se rappeler aussi, de noter qu'il y a deux parties aux 10 commandements. Il y a la partie, ce qu'on appelle verticale, qui est des commandements qui ont attrait à notre relation avec Dieu. C'est nous à Dieu. Et une partie des commandements, c'est notre relation horizontale. C'est nous vis-à-vis des gens autour de nous, la famille, des gens, des hommes autour de nous. Donc les 10 commandements, c'est: vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi, vous n'aurez pas d'idole ou de sculpture ou de représentation, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère ou en vain. Et puis l'idée du sabbat, de respecter le sabbat, tu garderas un jour de sabbat. Ensuite, il y a « Honore ton père et ta mère ». Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, etc. Donc cette idée de convoiter ce qu'a l'autre. Et donc on voit qu'il y a dans ces 10 commandements la partie vis-à-vis de Dieu, et ensuite la partie vis-à-vis des gens autour. Donc cette loi, elle commence simplement là, c'est 10 commandements concises. On va voir dans le Lévitique qu'il y a beaucoup plus de choses qui viennent après, mais ça c'est vraiment le cœur de ce que Dieu veut. Paul, en parlant dans Romains, alors nous souvent quand on voit la loi, on se dit c'est en respectant ce qui est écrit dans la loi, ces règles, qu'on va arriver à mériter l'amour ou l'acceptation de Dieu. Et Paul nous dit qu'en fait cette loi, elle sert surtout à nous montrer que nous sommes pas capables de plaire à Dieu, parce que même ces commandements, 10 commandements simples, sont trop difficiles pour nous à tenir. Pas voler, pas mentir, pas convoiter ce qu'a l'autre, etc. C'est des choses, on se dit, bon, ben, quand on regarde honnêtement cette liste des 10 commandements, on ne peut pas se dire qu'on n'a pas commis de choses parmi ces choses-là. Et on voit qu'en plus, Jésus, dans le Nouveau Testament, va dire, mais en fait, c'est encore pire. Vous dites, ah, j'ai pas commis de meurtre, mais si tu étais énervé envers quelqu'un, c'est comme si tu avais commis le meurtre. Tu l'as pas fait parce que tu avais les lois et tu avais peur d'être mis en prison, mais en fait, tu l'aurais fait et c'est la même chose. Donc, Jésus va même élever la chose et Paul, il nous dit, en fait, c'est pas une liste pour mériter la loi, pour mériter la grâce de Dieu. C'est une liste qui est faite pour nous montrer qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Donc, Moïse descend de la montagne avec ses tablettes de la loi et il descend aussi, Dieu lui donne aussi les plans du tabernacle. Donc il y a Dieu leur dit de construire un petit temple dans lequel en fait c'est un petit peu comme s'il va habiter avec eux, il va être présent au milieu du peuple dans ce temple et ça va leur donner cette identité forte avec Dieu qui est au milieu d'eux. Et ça va vraiment rythmer leur vie, leur manière de fonctionner en tant que peuple, en tant que nation. Et ça va être l'endroit où le peuple va pouvoir venir rencontrer Dieu, en quelque sorte, le lieu d'interaction du peuple avec Dieu. Là aussi, on peut faire toute une étude rien que sur le tabernacle, sur les symbolismes de tout ce qui y est, sur ce que ça représente ensuite par rapport à Jésus. Il y a plein de parallèles entre les choses dans l'Ancien Testament et les représentations et ce que symbolisaient les choses dans le tabernacle vis-à-vis de ce qui va se passer avec Jésus, qu'on n'a pas le temps de regarder aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais là aussi, je peux vous donner d'autres références si vraiment vous voulez vous plonger là-dedans. Donc ça, c'est plus ou moins ce qu'il y a dans l'Exode. Il y a d'autres épisodes, d'autres choses, mais c'est les choses importantes. On peut regarder quelques éléments par rapport au plan si ça vous intéresse un petit peu. Donc il y a la servitude en Égypte avec l'envoi d'un libérateur, c'est les 11 premiers chapitres. Il y a la Pâque, puis la sortie d'Égypte, c'est les chapitres 12 et 14. Ensuite, il y a des passages au désert, ce qui se passe quand ils sont au désert, c'est les chapitres 15 à 18. Ensuite, il y a la loi et ce que Dieu leur donne, c'est vraiment du chapitre 19 à 34, donc vraiment une grande partie. Et puis, il y a Dieu qui va être présent dans le tabernacle. On voit qu'ils font tout ce qu'il leur a dit et Dieu qui va se révéler dans le tabernacle. Toutes ces choses, encore une fois, ont été écrites par Moïse. On pense qu'il a écrit sans doute pendant l'époque où ils étaient dans le désert, après ces choses-là. Et donc les deux événements vraiment à retenir, c'est cette sortie d'Égypte, cette libération, et puis la loi qui est donnée. Et ce sont deux choses qui sont vraiment très significative, encore une fois, comme je l'ai dit, dans l'histoire judéo-chrétienne. C'est des éléments fondateurs. Quelques thèmes théologiques ou idées qui reviennent, c'est l'idée que Dieu prend soin de son peuple, qu'il entend les cris de son peuple en Égypte et qu'il vient à leur secours. On voit, il y a des choses par rapport à la puissance de Dieu, qu'on ne peut pas s'opposer à la puissance de Dieu, le pharaon qui veut refuser et qui subit les fléaux et ces choses-là. Je vous disais qu'il y avait plein de choses qui étaient des parallèles avec avec ce qui allait se passer avec Jésus dans le Nouveau Testament. Là encore, on pourrait faire toute une étude rien que sur les symboliques parallèles. L'agneau pascal à la Pâque, dont le sang sauve ceux qui obéissaient aux directives divines et dont on ne devait briser aucun os. C'est des choses aussi qui vont être vraies pour Jésus. Il y a le passage de la mer des roseaux, qui est un petit peu une image du baptême. Il y a dans le désert Dieu qui va leur donner ce qu'on appelle la manne, qui est le pain que Dieu leur donne pour vivre. Et c'est un peu comme Jésus qui est le pain de vie, avec notamment ce qu'on voit avec la communion, cette idée de Jésus en tant que pain. Il y a un épisode où Moïse doit frapper un rocher pour que de l'eau sorte, pour abreuver le peuple. Et on peut aussi dire que Jésus, en quelque sorte, était comme un rocher qui a été frappé et d'où sort l'eau vivante. On sait que Jésus disait de lui qu'il allait donner de l'eau, que de lui sortirait de l'eau, que si on buvait de cette eau, on n'aurait plus jamais soif. Il y a vraiment, vraiment des parallèles incroyables et qui continuent encore ce qu'on disait sur l'idée que ces livres de l'Ancien Testament qui ont été écrits bien avant la vie de Jésus ont des parallèles vraiment incroyables, vraiment surnaturels avec ce qui allait se passer avec Jésus plus tard. On va passer au Lévitique. Donc après l'Exode, il y a le Lévitique. Le Lévitique, c'est un livre, souvent les gens, quand ils commencent à lire la Bible, on leur dit, c'est le troisième livre dans la Bible. Souvent les gens, ils commencent la Bible, ils lisent la Genèse, ils lisent l'Exode. C'est des histoires, il se passe des choses, ça se lit assez bien, et on arrive au Lévitique, et les gens, ils avancent plus, et c'est la crise, et ils se disent, oh, je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. Et ils s'essoufflent, et souvent, ils ont du mal à passer derrière. Donc on va essayer de regarder brièvement le Lévitique pour pas trop s'endormir et pas trop se faire mal. Mais le Lévitique, c'est la loi de la nation. Donc c'est aussi, je ne sais pas si vous avez déjà lu des textes de loi, ou le code du travail, ou des choses comme ça, c'est pas toujours des lectures faciles. Pourtant, ce genre de texte permet souvent d'avoir une compréhension de la culture du pays en question. On voit ce qui est important, on voit ce qui a de la signification, les choses qui leur sont importantes ou pas, et souvent sont le fruit de l'histoire du pays particulier. Et donc le Lévitique, c'est un peu comme ça. On regarde les règles de la nation. C'est Dieu qui leur a donné ces règles, et ça permet de voir et de connaître et de comprendre pas mal de choses sur la nation d'Israël. En commençant, l'idée importante pour en abordant ce texte, c'est le mot de sainteté. Et en fait, c'est Dieu qui va expliquer les règles à suivre pour que le peuple d'Israël puisse avoir une interaction avec lui. Et ce que Dieu exige pour que nous puissions avoir une interaction avec lui, et notamment pour le peuple d'Israël, c'est la sainteté. Et sans cette sainteté, il y a une cassure entre nous et Dieu. Et donc toutes les règles, tout ce qu'on voit dans le Lévitique, c'est cette idée de, pour être saint vis-à-vis de Dieu, pour être consacré à Dieu, il y a besoin de suivre ces choses. Ça va aussi montrer la gravité de notre situation vis-à-vis de Dieu, la gravité de la condition de l'homme dans le péché vis-à-vis de Dieu, et l'idée que c'est quelque chose de très grave et qui nécessite un traitement lourd. Quand vous allez chez le médecin, vous pouvez vous imaginer la gravité de votre maladie par rapport à ce qu'il va vous donner comme traitement. Ah, c'est bon, on prend deux aspirines, une bonne nuit de sommeil et c'est bon. Ou alors, il faut aller à l'hôpital pendant un mois avec des traitements lourds, etc. C'est pas la même chose et on sait tout de suite si c'est grave ou pas. Là, on s'aperçoit que le péché, c'est grave. Et la Bible, Dieu dit, c'est grave. Et pour que vous soyez guéri, il y a besoin de traitements lourds. C'est pour ça aussi que c'est difficile de le lire parce qu'il y a plein de choses, plein de sacrifices, plein de choses lourdes à comprendre. On va voir qu'il y a des règles de société, il y a des choses plus ou moins simples, il y a des calendriers avec des fêtes qui devaient avoir lieu pendant l'année, qui avaient certains sens, certaines représentations. Et le c'est aussi intéressant de se rappeler que le peuple d'Israël, nous on a souvent tendance dans notre société moderne à faire une différence entre le sacré et le profane. On a le religieux et puis notre vie sans la religion, il y a une séparation. Et Dieu, dans ce qu'il va communiquer à la nation d'Israël, c'est il va dire « Votre vie tout entière me concerne. Tout ce que vous faites, votre vie de tous les jours, tout ce que vous faites dans la vie, a un effet sur votre relation avec moi. » Et donc ces règles, c'est des règles qui englobent toute la vie. Pas juste le dimanche matin, quand vous allez à l'église, vous faites 2-3 trucs et c'est bon, et le reste du temps, vous êtes tranquille. Là, c'est vraiment Dieu qui dit « Toute votre vie me concerne. » Et donc, il y a toutes ces règles à suivre pour que vous soyez en accord avec moi. Et donc, il va leur donner un rythme de vie, de semaines, d'années. On voit qu'il y a aussi une notion très importante d'agriculture, parce que c'était une société rurale, donc c'est lié à l'agriculture, aux récoltes, etc. Et toutes ces choses nous aident à comprendre les règles qui sont données et à avoir un petit peu plus clair dans ces textes qui souvent sont très difficiles à lire parce qu'on est un petit peu, quand on est là avec la loupe à regarder un verset, on a du mal à avoir le contexte.
Parfois il faut bien relire pour bien saisir le message.
Et donc, je vais juste donner un plan et quelques thèmes, et puis on va en rester là. Mais là aussi, il y a toute une étude. On peut passer beaucoup de temps sur ces choses. Donc, il y a premièrement une. Il y a différentes manières de diviser, évidemment, avec un plan pour essayer d'aider à saisir. On pourrait dire que c'est en deux parties que le livre répond à deux questions. Comment s'approcher de Dieu? Comment aller à Dieu? Et comment mener une vie sainte sous son regard? Comment avoir une communion un petit peu avec Dieu dans la vie de tous les jours? Et donc la première partie, c'est les chapitres 1 à 10. C'est cette idée de comment aller à Dieu. Et donc il y a une partie avec des sacrifices et des offrandes. Dans Lévitique, ouais. C'est le Lévitique 1 à 7. Et ensuite il y a dans le peuple d'Israël, il y avait une des tribus qui était mise à part pour gérer les rites et les sacrifices, qui étaient les Lévites. Et donc c'est de là que vient le nom du livre, le Lévitique. Et donc, il y a une partie sur le rôle des choses plus exactes pour les Lévites des chapitres 8 à 10. Ensuite, la deuxième partie des chapitres 11 à 27, c'est plus cette idée de comment vivre la vie de tous les jours. Donc, il y a des prescriptions sur comment mener une vie de pureté. Il y avait des choses, des chapitres 11 à 15, des choses par rapport au culte, la louange accordée à Dieu, les chapitres 16 et 17. Il y avait des choses sur les relations humaines avec la famille et la société, les chapitres 18 à 22. Il y a les fêtes et les ordonnances diverses sur différents cas de figure, des chapitres 23 à 25. Et ce qu'on appelle les vœux et les dîmes, qui étaient un peu des sacrifices particuliers, puis le fait de donner de l'argent, c'est les chapitres 26 à 27. Ça nous aide un petit peu à cadrer les idées. Juste quelques idées théologiques par rapport à ces choses-là. Donc je vous ai déjà dit que Dieu était saint et qu'il exige la sainteté. C'est quelque chose qui revient dans toute la Bible. Nous, on va voir qu'avec le sacrifice de Jésus, on n'a plus la lourdeur de ces sacrifices pour avoir une communion avec Dieu. On a vu ce que je vous disais, que la vie de l'homme tout entière concerne Dieu. Il n'y a pas cette notion de sacré et profane qui sont séparés aux yeux de Dieu. Il y a l'idée que le péché doit être enlevé. Le péché dans la vie de l'homme doit être traité pour que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu. Il y a encore une fois toute une étude avec les sacrifices et ce que ça représente vis-à-vis de Jésus. Il ressort encore une fois ce que je vous disais par rapport aux 10 commandements, l'idée qu'il y a des règles qui sont par rapport à notre relation verticale, des choses vis-à-vis de Dieu dans les lois, et ensuite des choses vis-à-vis des gens autour de nous, de la société. Donc il y a encore cette double commande, et on se rappelle aussi que Jésus, dans le Nouveau Testament, va dire que, à la réponse, quel est le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a toujours cette double partie qui ressort. Qu'est-ce qu'il y a comme idée que je pourrais encore vous communiquer avant de passer à la suite? Il est intéressant de noter que dans ces règles, il y a plein de choses par rapport à l'hygiène. Il y a des choses sur la symptôme des maladies, sur les sources de contagion, sur les désinfections. Il y a des règles sur la législation sociale pour les pauvres, pour les étrangers, pour les infirmes, pour les vieillards, pour les esclaves. Il y a des réglementations par rapport aux terres, à comment utiliser la terre pour l'agriculture, qui sont très en avance sur leur temps, qui pour nous semblent normales. Mais par exemple, l'idée de se laver les mains avec de l'eau, à l'époque, c'était pas quelque chose qui existait. Et nous, maintenant, avec la médecine moderne, on s'aperçoit que c'est des choses qui sont très sensées, qui ont un sens très, très compréhensible. Et on s'aperçoit que la sagesse de Dieu, en fait, était vraiment en avance. L'idée de laisser les terres, de les utiliser pendant 6 ans et de les laisser en jachère pendant 1 an, la 7e année, la science actuelle nous montre qu'en fait, il y a une raison. La terre a besoin de se reformer, recharger. Donc, il y a plein de choses dans ces textes aussi où on peut les lire en disant « mais c'est arriéré, c'est lourd, les femmes devaient sortir du camp, étaient considérées comme impures pendant la période ». Mais en fait, c'était à l'époque, au niveau hygiénique, ça posait un problème. Et donc l'idée simplement d'avoir une séparation, c'était de l'hygiène simple qui permettait de garder au niveau médical des choses. Et donc il y a vraiment plein de lectures qu'on peut faire dans ces textes. Encore une fois, parfois c'est difficile quand on les lit tout seul, sans aide, pour voir ces choses, mais il y a vraiment plein de choses à voir.
Il y a des choses qui sont restées. Hein.
Ah, il y a plein de choses. Hein. Encore une fois, c'est ces textes et cette culture judaïque qui influence la culture chrétienne et qui influence jusqu'à aujourd'hui.
Parce que j'étais en Indonésie et il y avait plein de temples où il y avait écrit à l'entrée que si les femmes étaient dans leur période de menstruation, elles n'avaient pas le droit de rentrer. Ouais, donc ça reste.
Ça, je sais pas si c'est lié, mais c'est peut-être. Voilà. Donc c'est le Lévitique. Encore une fois, on pourrait passer beaucoup de temps, mais il nous reste 25 minutes pour faire les deux prochains livres, donc on va passer. On essaie de rester dans les clous. Si vous avez des questions, on aura notre temps de discussion à la fin. Hein, Donc on passe au nombre. Le livre des nombres tire son nom du fait que il y a deux grands recensements du peuple dans leur voyage dans le désert, au Sinaï, après leur sortie d'Égypte et avant de rentrer en terre promise. Et donc on avait dit qu'il y avait peut-être des estimations 2 à 3 millions de personnes. Dans ce livre, on va avoir leur voyage dans le désert où ils vont passer 40 ans à voyager. Ils étaient en campement portable, ils étaient en tente et en nomade. Dieu leur donne plein de règles. Il y avait une organisation précise, comment ils devaient camper, comment ils devaient disposer les choses. Il y avait le tabernacle au centre avec les camps, telle tribu à tels endroits. Quand ils devaient lever le camp, chaque tribu avait leur rôle. Ils devaient s'occuper de telle chose, prendre telle partie des choses et les amener avec eux. Donc il y a plein de détails par rapport à ses prescriptions. Dans leur voyage dans le désert, on voit qu'il y a le Dieu qui va être avec eux dans le tabernacle, et puis quand ils sont en déplacement, il va les conduire avec cette colonne de fumée de jour et une colonne de feu la nuit. Il va avoir plein d'épisodes. Alors il y avait cet épisode avec les 12 espions, ce que je vous disais, où ils vont rentrer dans la terre promise et puis revenir, et les 10 de ces espions vont dire non, on peut pas y aller. Donc ils vont partir. Et en fait, il va y avoir plusieurs révoltes et pas mal de situations où le peuple va murmurer et se rebeller contre Dieu et contre Moïse, en se plaignant, en disant voilà, on est perdu dans le désert, on était bien en Égypte et maintenant on est dans le désert, perdu, on n'a que de la manne à manger, on aimerait bien un peu de viande. Enfin, il y a pas mal d'épisodes où on voit qu'ils se plaignent vis-à-vis de Moïse et vis-à-vis de Dieu. Et on peut dire que c'est la peur. Ils ont peur du changement, ils ont peur de l'inconnu. Ils partent, ils savent pas où ils vont.
Ils n'ont pas la foi, quoi.
Ils n'ont pas la foi, et pour nous, c'est cette idée. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Et on va voir que Dieu donc va leur dire, vous allez passer, le peuple adulte qui a pris la décision de ne pas rentrer dans la terre promise, de ne pas me faire confiance, on va tourner dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient tous décédés, et puis ensuite, c'est ça qu'il leur dit.
C'est fermé.
On pourrait aussi dire que les espions, ils ont été 40 jours dans la terre promise, et c'est un jour, une année pour chaque jour de passer dans la terre promise. Donc il y a plein d'épisodes, c'est plein de détails sur là où ils ont été, ce qui s'est passé, etc. Donc il y a des batailles, des rencontres d'autres peuples, il y a des histoires sur comment ils se révoltent contre Moïse, etc. Donc on va pas rentrer dans le détail. Ça c'est un livre qui se lit beaucoup plus facilement que le Lévitique, parce que c'est plutôt des histoires on peut le lire, c'est beaucoup plus abordable. On peut encore une fois peut-être regarder peut-être un plan approximatif du livre avec le recensement et l'organisation des Israélites dans le camp, des chapitres 1 à 8. Il y a la célébration de la Pâque, les chapitres 9 et 10. Il y a ensuite l'errance dans le désert, différents jugements suite à des différentes révoltes et différentes choses, des chapitres 10 à 21, plein de choses différentes. Et puis encore une période d'errance et de voyage avec des choses similaires, des chapitres 22 à 34. Donc c'est vraiment difficile de faire un plan détaillé, parce que sinon chaque chapitre a son histoire, etc. On pourrait dire encore une errance en Transjordanie et des nouveaux jugements, des nouvelles lois.
Transjordanie.
Mm-hmm. Alors après, là aussi, c'est difficile parce que il y a, on dit, alors c'est ouvert à débat, mais il y a la moitié ou voire les deux tiers des endroits qui sont pas identifiés. C'était des endroits dans le désert. On a les noms dans ces textes-là, mais on ne sait pas où c'était en réalité. Tout ça, c'était il y a longtemps. Je ne sais pas si on appelait le Mont Chauve il y a 500 ans. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est difficile de savoir. Même quelque chose comme la traversée de la mer Rouge, par exemple, c'est ouvert à débat. J'en ai une carte juste pour montrer, entre guillemets. Bon, c'est pas super clair, mais donc ici, enfin, l'Égypte est ici, avec Israël par ici, et puis l'Arabie Saoudite ici. Et donc il y a des gens qui pensent que la traversée c'était ici. Souvent sur les cartes dans vos bibles ils vont dire que c'était là. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'en fait ils auraient traversé là. Donc on dit que le Sinaï actuel c'est ici, mais on parle du fait que peut-être que le Sinaï en fait c'était plutôt en Arabie Saoudite. Et notamment actuellement avec l'Arabie Saoudite qui est une terre musulmane, ils ne laissent pas du tout d'expéditions archéologiques. Et donc toutes ces hypothèses, pour l'instant, malheureusement, ils ne peuvent pas les vérifier, ils ne peuvent pas les regarder dans ces territoires. Traditionnellement, les gens vont dire ben, ils ont tourné ici, puis ils sont montés un petit peu. Mais en fait, on pense que peut-être qu'ils seraient descendus, traversés, puis aller plus, un peu plus loin. Alors c'est vraiment ouvert à débat. Les archéologues, les théologiens, il y a des gens qui passent leur vie à essayer de chercher ces choses. Mais à cause des réalités géopolitiques de nos jours, on peut malheureusement pas plus approfondir que ça ces études.
Non, parce que...
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre idée que je peux vous sortir pour le livre des nombres?
Pourquoi est-ce que c'est appelé
nombre? À cause des recensements. Census. Deux fois, au début du livre et à la fin du livre, ils vont faire un recensement du peuple où ils vont compter. Il y a des chiffres très précis. Ils n'étaient pas 100 000, ils étaient 60 651 hommes en état de batailler dans la tribu Intel. Donc là aussi, il y a des détails historiques qui sont vraiment précis. Et on dit aussi que les détails par rapport à la vie nomadique dans le désert, les détails qui sont donnés... par rapport aux autres écrits qu'on a de ces périodes-là, dans ces régions-là, sont très proches de la réalité historique et très détaillées. Ouais. Est-ce que j'ai encore des choses à vous dire? Par rapport à l'écriture, donc, dans un des commentaires que je lisais, il disait que donc c'est encore une fois Moïse qui écrivait ces choses à la fin de sa vie, sans doute juste avant l'entrée en terre promise. Et il y a sans doute en vue la jeune génération qui allait entrer en terre promise et l'idée de leur communiquer, de ne pas faire les erreurs de leurs aînés et de se plaindre vis-à-vis de Dieu et de manquer de confiance vis-à-vis de Dieu. Il veut les préparer à entrer dans la terre promise et les leur dire voilà ce qui s'est passé avec vos anciens, ne commettez pas les mêmes erreurs, ne soyez pas dans les mêmes problèmes de révolte et d'incrédulité. On le voit aussi dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'épisodes, encore une fois, qui sont cités même dans le Nouveau Testament. Et encore une fois, des préfigurations de Jésus. Il y a un épisode avec un serpent d'airain qui est élevé sur une croix et il devait regarder le serpent. Il y avait des serpents qui mordaient les gens, et s'ils regardaient le serpent en airain, ils mouraient pas. Et donc là, encore une fois, c'est vraiment un parallèle frappant avec Jésus. Paul va en parler dans... Non, Jean en parle dans Jean 3, 14. Donc encore une fois, la manne, etc. Là aussi, on pourrait faire tout un parallèle, une étude parallèle entre les épisodes et les ordres symboliques vis-à-vis de la vie de Jésus. Je pense que je vais m'arrêter à ça pour le moment, pour nombre. Peut-être juste rappeler que dans le Nouveau Testament, il est dit que ces choses étaient écrites pour notre enseignement. Et comme leçon, c'est-à-dire que c'est aussi des choses sur lesquelles on peut lire ces leçons, ces textes et voir des leçons sur voir les principes spirituels derrière, voir le caractère de Dieu, le caractère des hommes, les choses comme ça et tirer des leçons pour nous. C'est encore une fois parfois des textes un petit peu on a du mal à comprendre les pourquoi de ces textes, c'est pas forcément super évident et en creusant, on peut vraiment trouver plein d'applications pour nous aujourd'hui. On va passer au Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque. Et le Deutéronome, c'est en quelque sorte la répétition de la loi. Et ici, c'est juste avant l'entrée dans la terre promise. Et là aussi, c'est l'idée que Dieu, il avait donné la loi à la première génération. qui avait refusé de rentrer en terre promise, et il va la redonner à la nouvelle génération qui va rentrer en terre promise en disant voilà ma loi, mais ce que je veux que vous fassiez, et va leur répéter quasiment toute la loi. Il va avoir des adaptations parce que leur mode de vie va changer sur les choses à faire. Ils vont passer d'un peuple nomadique à un peuple plus établi dans la terre promise. Donc il y a des choses qui allaient s'appliquer moins. Donc il y a des adaptations des choses dans la loi. On dit que ce texte est écrit suivant une structure qui rappelle des traités qui pouvaient être établis entre un roi et son peuple, ou entre un roi souverain et des rois qui étaient sous un roi. C'était une sorte de traité ou de contrat, et qui a une similitude au niveau de la structure avec d'autres textes qu'on trouve de cette époque-là. Donc il y a des gens qui divisent le texte suivant une forme de contrat où il y a un préambule, un arrière-plan du traité avec l'histoire des choses qui vont être présentées, les stipulations fondamentales du traité, des stipulations plus détaillées, une ratification de l'alliance, des sanctions vis-à-vis de si vous suivez ce qui est l'alliance ou si vous la rompez, etc. Et puis une signature en quelque sorte où vous dites oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord avec ces conditions. Là aussi, il y a quelques épisodes avec des histoires un peu plus détaillées, historiques. Mais la plus grande partie du livre, c'est vraiment une réitération des lois et des règles. Donc si vous aimez les plans, il y a le plan au niveau des ce que je vous disais au niveau du traité, mais un plan plus simple, il y a une rétrospective de l'errance d'Israël au désert, les premiers 4 chapitres. Il y a une réitération des lois d'Israël, c'est du chapitre 5 au chapitre 26. Il y a le peuple qui accepte la loi de Dieu et l'alliance, c'est les chapitres 27 à 30. Et puis on voit les derniers jours de la vie de Moïse, des chapitres 31 à 34. Et là, l'idée, c'est un petit peu Moïse qui parle à cette jeune génération qui va rentrer en terre promise. Et il y a un côté un peu solennel, parce que c'est en quelque sorte un discours d'adieu de la part de Moïse, qui lui n'allait pas rentrer en terre promise. Donc c'est un petit peu son au revoir, et à la fin de sa carrière en quelque sorte, où il dit voilà ce que vous devez prendre avec vous en entrant dans la terre promise. Puis leur dit, d'une certaine manière, que le seul moyen pour vous de vraiment conquérir la terre promise, c'est si vous suivez les commandements de Dieu. Si vous suivez Dieu, vous allez avoir la terre promise, mais si vous ne faites pas ce qu'il vous a demandé, ça va pas marcher. Donc il va répéter, expliquer, amplifier certaines choses dans la loi. Il va leur essayer de vraiment les convaincre que la loi et toutes ces prescriptions que Dieu leur a données, c'était pour leur bien. C'était pas quelque chose qui était là juste pour les embêter, mais que c'était Dieu qui souhaitait leur bien et qui voulait les conserver et vraiment les établir en tant que peuple, avec une identité propre et séparée des autres peuples. Et c'était en suivant ce que Dieu leur avait dit qu'ils allaient pouvoir faire ça. Ce livre du Deutéronome est intéressant, il est cité ou on y fait référence plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Donc on voit que c'est vraiment un livre, notamment Jésus, quand Satan le tente, sur les 4 tentations, 3 fois Jésus va répondre avec des citations du Deutéronome. Donc c'est vraiment un texte qui est important et auquel il est beaucoup fait référence dans le Nouveau Testament. Dans les thèmes, peut-être, dans les idées, les choses qui reviennent, il y a, pour vous sortir un petit peu les choses, il y a l'idée que l'homme est appelé, on est appelé à savoir d'où on vient et où on va, et de ne pas reproduire les erreurs du passé, pour nous personnellement, mais aussi pour en apprenant de la part des autres. Est-ce que c'est ce que le Nouveau Testament nous dit, que ces choses nous ont été données pour servir d'exemple et pour qu'on apprenne. Cette idée de l'importance des lois de Dieu, qui nous donne des choses, pas pour nous accabler, mais pour nous aider. Il met de l'ordre dans la vie des gens. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, et donc il sait comment l'homme doit vivre pour être le mieux possible. Donc obéir, c'est obéir parce qu'il y a, il y a une sortie positive. Et puis ça ressort encore une fois cette double partie entre l'idée qu'on doit adorer Dieu, avoir une relation avec Dieu, mais aussi on doit aimer son prochain et servir les gens autour de soi. Le Deutéronome, il va rajouter certaines prescriptions encore pour l'étranger, pour le pauvre, pour différentes situations dans la vie, une fois qu'il y aura des villes, des règles pour comment gérer ces choses. Donc c'est un livre très riche et c'est très intéressant, notamment de voir les promesses. Si vous regardez les chapitres, c'est 28 et 29, où il y a vraiment une opposition. Il leur dit, si vous obéissez à mes lois, vous aurez ces conséquences, et si vous refusez, vous aurez ces malédictions, en quelque sorte. Il y a des bénédictions et des malédictions qui sont opposées. On va essayer de s'en rappeler dans la suite de l'étude, quand on va regarder l'histoire du peuple d'Israël en terre promise, de voir que quand ils ont des périodes où ils respectent la loi et où ils s'attachent à faire ce que Dieu leur a demandé de faire, les bénédictions vont suivre, les choses que Dieu leur avait promises vont suivre. Et quand ils ne vont pas les suivre et quand ils vont se détourner de Dieu, les malédictions qui ont été annoncées dans le Deutéronome vont arriver aussi. Juste pour vous confirmer, c'est le chapitre 28. Qui est vraiment intéressant, et il y a une opposition vraiment, un contraste entre les bénédictions et les malédictions. Donc toutes ces choses, ces quatre livres, avec cette naissance du peuple d'Israël, nous donnent les conditions qui vont donner l'identité forte, je vous disais, de la nation d'Israël qui a réussi à subsister jusqu'à aujourd'hui de manière séparés, c'est quelque chose qui est quasiment unique dans l'histoire humaine. D'habitude, les peuples, avec l'histoire, finissent par se fondre un peu avec les peuples autour, les cultures, etc., se mélangent, et le peuple juif a réussi à garder une identité très, très forte et très séparée du monde, parce que ils ont respecté et gardé ces lois et ces règles que Dieu leur avait données dans ces livres. Et ces conditions, cette séparation des autres peuples qui vont les mettre aussi dans les conditions et dans la situation pour que Dieu accomplisse sa promesse de donner le Messie, Jésus, des années après ce qui s'est passé dans ces textes. Et c'est des choses qui aussi répondent à la promesse que Dieu avait faite à Abraham en disant que je ferai de tes descendants un peuple, une nation très nombreuse. C'est vraiment tous ces textes et tout ce qui se passe dans ces quatre livres de la fin du Pentateuque qui donnent les conditions qui vont leur permettre de rester aussi unis et aussi marqués par rapport aux cultures autour d'eux jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il est intéressant aussi, on peut regarder aussi par rapport à tout ce qui est l'idée de malédiction, l'idée que quand ils ne vont pas recevoir et pas respecter ce que Dieu leur demande. Il y a aussi une notion prophétique par rapport à ce qui se passe après la vie de Jésus avec le peuple, avec Israël qui est détruit en tant que tel, avec la dispersion de par le monde, vraiment les conséquences du fait que Israël a rejeté les lois et les choses qui avaient été données. Et encore une fois, on peut faire plein de parallèles entre ce qui est dans ces textes-là et ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Il y a plein de parallèles, plein d'éléments qui sont prophétiques, qui sont des images de ce qui allait arriver plus tard. Mais on va s'arrêter là pour ce soir.